Ce soir, on va poursuivre notre étude du protestantisme en Allemagne au XIXe siècle. On va voir un ministère tout à fait particulier, qui est celui du pasteur Jean-Christophe Blumhardt. Ça s'écrit B-L-U-M-H-A-R-T-D-T, c'est ça? Bien, le ministère de Blumhardt est un ministère qui s'inscrit dans la lignée du piétisme allemand du siècle précédent, et il va être un lien, on peut dire, d'une certaine manière aussi avec le mouvement de Pentecôte qui surgira au siècle suivant. Blumhardt était le fils d'un boulanger et très vite il a été remarqué, jeune enfant, par son instituteur pour être un garçon doué d'une grande intelligence. Il était né le 16 juillet 1805, dans des moments particulièrement difficiles. C'était au moment des guerres napoléoniennes et les Français de Napoléon venaient d'envahir Stuttgart, dans lequel justement il était né. Et de ce fait, lui-même était trop jeune pour se rendre compte de la situation, mais enfin, les premières années de sa vie vont être extrêmement difficiles à cause justement de l'état dans lequel se trouve l'Allemagne. C'est l'aîné d'une famille l'aîné de la famille était mort il y a quelques années auparavant, et il était donc membre d'une famille de 6 frères et sœurs. Ses parents, donc, étaient des chrétiens fervents qui avaient des rapports avec, justement, les piétistes. Et très jeune, donc, il va grandir dans une atmosphère de foi, à une époque où le piétisme est un petit peu sur le recul aussi, et un certain nombre de pasteurs allemands voudraient redonner un nouveau souffle au piétisme. C'est aussi l'époque où l'Allemagne est travaillée par les courants rationalistes sur le plan théologique, dont nous avons parlé ensemble la dernière fois. Et petit à petit, il y a eu donc dans le protestantisme allemand une relativisation de la Bible. Et dans les milieux piétistes, on voudrait redonner à la Bible son autorité, sa valeur, sa centralité dans la vie et dans le culte. Dans les cercles que fréquentent donc les parents de Blumhardt, il y a aussi une attente très vive du retour de Jésus. Ça, c'est aussi un des points qui avait marqué le réveil du temps de Zinzendorf. Et cette attente reste d'autant plus vive et d'autant plus vive que, un peu dans les milieux aussi issus des réveils du siècle précédent en Angleterre, on a l'impression de vivre les événements de la fin. Les Anglais, notamment, avaient tendance à voir, les chrétiens évangéliques d'une manière générale, non français bien sûr, avaient tendance à voir en la personne de Napoléon, sinon l'Antichrist lui-même, du moins un type de l'Antichrist. Certains allaient jusqu'à dire qu'il était l'Antichrist, n'est-ce pas, et que la Révolution française, qui, avec ses excès, avec ses horreurs, avec notamment son athéisme militant, dans la deuxième partie en tout cas de la Révolution, son désir de mettre fin à tout ce qui était le passé chrétien, ouvrait la voie aux choses dernières, donc, et à l'Antichrist. Et c'est les groupes piétistes en Allemagne qui partageaient plus ou moins ces vues des chrétiens anglais, n'est-ce pas ? On était aussi en relation étroite avec l'Angleterre, considéraient qu'il fallait par conséquent se préparer par une piété et une ferveur renouvelée aux choses dernières qui ne pouvaient pas manquer d'arriver. On pensait que les soldats français de Napoléon étaient venus pour justement aussi préparer le chemin de l'Antichrist, et il fallait donc se préparer au retour de Jésus. Et un des moyens aussi de se préparer au retour de Jésus, c'était de s'attendre à une intervention du Saint-Esprit, une effusion du Saint-Esprit. Et c'est en cela que nous avons une préparation du réveil de Pentecôte qui naîtra au siècle suivant, et que le Seigneur, dans des temps particuliers comme cela, des temps d'apostasie, allait aussi répandre son esprit, et on s'attendait à des effusions de l'esprit, notamment justement en ce qui concernait le réveil, et on attendait aussi la manifestation de miracles. Les années qui ont suivi donc la naissance de Blumhardt jusqu'en 1715, 1716, c'est-à-dire la fin de l'épopée napoléonienne, ont été des temps extrêmement difficiles pour l'Allemagne, des temps de guerre, et donc avec son cortège de famine, etc. Cette situation difficile de pauvreté, disons, dans laquelle vivait la famille de Blumhardt, bien loin d'être une occasion de s'éloigner des choses de Dieu, était au contraire une occasion de se ressaisir spirituellement. Et le jeune Blumhardt a été fort marqué par la piété familiale, le culte de famille en particulier. À l'âge de 14 ans, il entre à l'université, ce qui montre que c'est un garçon particulièrement précoce. Et en 1822, son père décède. Il n'a alors que 27 ans. Et tout naturellement, il se destine au service de Dieu. Ça, c'est son. Depuis très longtemps, il a décidé de consacrer sa vie au Seigneur. Et il va entrer dans le cursus, non pas des dissidents, si vous voulez, mais de l'Église officielle. L'Église officielle, c'est-à-dire qu'en 1824, il entre comme étudiant à la faculté de théologie de Tübingen, qui est la plus prestigieuse école de théologie allemande de cette époque-là, peut-être aussi mondiale, on pourrait dire. Pendant 5 ans, il va étudier la théologie. C'est l'époque où l'école de Tübingen est très marquée par le courant rationaliste, libéral, qui va être celui du protestantisme allemand. Et Jean-Christophe va donc être marqué aussi il va être en contact en tout cas avec ce type de démarche intellectuelle et théologique. C'est un grand admirateur de Luther. Il étudie énormément les œuvres de Luther, mais comme la théologie ne lui suffit pas, il étudie l'histoire, notamment l'histoire moderne, la philosophie, la musique et aussi la physique. Enfin, c'est un petit peu son dada. Il est aussi soutien de famille par la même occasion, ce qui l'amène aussi à effectuer de menus travaux, non seulement pour financer ses études, mais également pour financer la subsistance de sa famille. Autant dire qu'il a là une envergure assez exceptionnelle. À l'école de théologie de Tübingen, on est en plein marqué par la philosophie d'Hegel, qui donnera naissance au marxisme. Et pendant un temps, Jean-Christophe est lui-même interpellé par la philosophie d'Hegel. Et il lui faut tout son arrière-plan piétiste, l'arrière-plan piétiste dans lequel il a été élevé, pour ne pas céder au mirage. Finalement, il va résister. En automne 1829, il est donc reçu à ses examens, après donc le cursus, brillamment, il est reçu brillamment. Et il est nommé pasteur d'une paroisse qui s'appelle Durenaz. Je ne sais pas comment on prononce ça. Durenaz. C'est ça, Durenaz. Et en même temps, il devient professeur d'hébreu à l'Institut missionnaire de Bâle. On a l'occasion de revenir aussi sur le fait que le 19e siècle est la grande période de l'expansion missionnaire. Et un peu partout en Europe protestante se créent des écoles de mission, c'est-à-dire des écoles de théologie, mais qui axent plus sur l'œuvre missionnaire et qui préparent, qui donnent des disciplines, si vous voulez, qui ne sont pas nécessaires à quelqu'un qui reste en Europe, notamment des cours de langue, des cours comment s'habituer aux cultures, de géographie, d'histoire des pays que les étudiants s'entendent à évangéliser. Et Jean-Christophe, qui lui est intéressé par essentiellement un travail pratique, il a fait le tour de la théologie qu'on lui a enseignée, il en a mesuré la vanité, il l'a rejetée, et pour lui, il entend être vraiment là où les choses se passent. Donc il va aider ces jeunes étudiants en leur donnant des rudiments d'hébreu, langue dans laquelle il se débrouille bien. Et il épousera une des jeunes filles en formation dans cette école biblique, s'appelle Doris Kollner, n'est-ce pas? Et en 1837, il est nommé pasteur à Ibtagen. Ça s'écrit comme ça se prononce, G-E-N à la fin. Il n'est pas pasteur officiel, il est vicaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire pasteur en second, d'un pasteur qui est très ombrageux. Et étant lui-même encore jeune, il décide de se consacrer essentiellement dans cette paroisse au travail parmi les jeunes et parmi les enfants. Il reste peu de temps parce qu'il s'entend assez mal avec le pasteur en titre, et le 3 juillet de la même année, il est nommé alors à Emotiagen, ça s'écrit Emotiagen, ça se prononce comme ça, je ne sais pas, près de Stuttgart, Emotiagen. Bien, et c'est là que son ministère va prendre toute sa dimension, toute son amplitude. Et par des circonstances tout à fait étonnantes auxquelles il ne s'attendait pas. Il y a dans cette petite ville qui est située dans la campagne, non loin de Stuttgart, c'est un village plus qu'une ville, il y a trois sœurs qui appartiennent à une famille qui s'appelle Ditus, D-I-2-T-U-S. Et notamment, il y a la plus jeune de ces trois sœurs qui est alors âgée de 25 ans, qui est en proie à des phénomènes étranges, d'abord dans la maison. Elle entend des bruits, il y a des objets qui se déplacent, il y a des phénomènes bizarres qui se produisent dans la maison. Et l'année suivante, en automne 1841, la jeune fille a des apparitions terrifiantes la nuit, une espèce de fantôme qui lui apparaissent tant et si bien que elle ne peut plus habiter dans cette maison. L'atmosphère est devenue irrespirable. Et elle doit quitter cette maison. Mais elle n'est pas quitte pour autant, car il semble que les apparitions qui l'ont tant impressionnée, qui l'ont tant effrayée, se sont aussi attachées à elle, et elle est tourmentée par des angoisses, elle ressent une présence malsaine autour d'elle, qui l'effraie, etc. Et donc, elle s'en ouvre à Jean-Christophe. C'est un genre de problème qui est nouveau pour lui, bien entendu. C'est pas le genre de question qu'on étudie dans les facultés de théologie comme celle de Tübingen. Et alors, pendant tout un temps, Jean-Christophe est complètement désarçonné par les problèmes de ces jeunes filles. Il essaie d'abord de les relativiser, de les minimiser, de les nier. Et puis, il est obligé de se rendre à l'évidence, il y a quelque chose. Alors, il prend la Bible. Et son attention est attirée, quand il lit les évangiles, sur les phénomènes de possession démoniaque. Et après avoir étudié la Bible, prié, il arrive à la conclusion que la jeune Ditus est possédée, véritablement possédée. Et c'est alors que il faut trouver une solution. Alors, il lit le texte dans lequel il est écrit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Il va donc jeûner et prier, et après tout un temps de préparation spirituelle, eh bien, il ose se rendre chez cette jeune fille et invoquer la puissance de Dieu. Immédiatement, quelque chose se passe. Enfin, une lutte spirituelle intense pendant quelques instants, avec la puissance spirituelle qui se trouve dans le corps de cette jeune fille. Mais dès le premier soir, la jeune fille est soulagée. Elle se sent beaucoup mieux, n'est-ce pas? Et bon, on peut penser que la victoire est remportée. Et en fait, il y a de nouveau des assauts démoniaques dans les jours qui suivent. Les nuits, c'est en particulier la nuit que la puissance démoniaque se manifeste. Et Jean-Christophe doit revenir à la charge plusieurs fois de suite, jusqu'à ce qu'enfin la paix se fasse dans le cœur de cette jeune fille après plusieurs jours de lutte. Et donc, il la déclare guérie. Et pendant tout un temps, effectivement, plus aucun phénomène mauvais ne se produit dans le cœur, dans la vie de cette jeune fille, jusqu'à ce que peu de jours après, alors un nouvel assaut terrible. Il est appelé en pleine nuit. Et là, donc, Jean-Christophe a vraiment le sentiment qu'il y a un déchaînement démoniaque, exactement comme le dit le texte de l'Évangile. Il prend des esprits plus méchants que lui. Et là, il a l'impression d'être environné d'une nuée de puissances démoniaques qui sont venues pour tenter un assaut définitif. Et là, donc, il livre un combat spirituel intense, n'est-ce pas, jusqu'à obtenir la délivrance totale et cette fois-ci définitive de la jeune fille. Plus jamais elle ne sera donc tourmentée par les puissances démoniaques. Et c'est tellement la transformation de cette jeune fille dont la situation était connue dans tout le village, est tellement évidente que, au bout d'un temps, elle témoigne autour d'elle du miracle dont elle a été l'objet. Et Jean-Christophe n'hésitera pas à lui confier ses enfants, elle devient donc nourrice de ses enfants, pour dire qu'elle est maintenant une personne totalement équilibrée. Et cette délivrance miraculeuse est l'occasion du réveil qui va donc naître dans cette paroisse dans laquelle Jean-Christophe Blumhardt se trouve être le pasteur. Et alors, là, va se produire un petit peu ce qui s'était produit à Éphèse, vous savez, après justement les miracles aussi d'exorcisme qui s'étaient produits à cet endroit-là. De nombreuses personnes viennent confesser on est un peu quand même dans des campagnes où règnent des superstitions diverses, et puis certains confessent à avoir des pratiques qui sont pas tellement, enfin qui sont occultes, disons quoi. Et Jean-Christophe Blumhardt va prendre ici une méthode, qu'on peut discuter. Il reprend un peu la méthode catholique de donner l'absolution, c'est-à-dire je t'absous de tes péchés. Bon, c'est discutable, bibliquement parlant, n'est-ce pas ? Enfin bon, c'est ce qu'il fait. Et le réveil va se répandre donc dans toutes les campagnes voisines comme une traînée de poudre. Les gens pleurent sur leurs péchés, les gens demandent au pasteur de venir prier pour eux à cause du péché qui est le leur, etc. C'est tellement intense que Blumhardt n'a plus le temps même de prendre de repas tellement il est sollicité. Et là, il prend conscience aussi de son, comment dirais-je, de ses limites humaines. Et il prend conscience qu'il y a une autre dimension dans la Bible. Il étudie la Bible, bien sûr, et il se rend compte qu'il est question du baptême du Saint-Esprit, des dons spirituels. Et il va aspirer aux dons spirituels. Il dit, Seigneur, donne-moi les dons spirituels. Et évidemment, dans ce réveil aussi qui se manifeste, il y a toujours, évidemment, il y a des choses qui sont véritablement spirituelles, qui sont véritablement l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et puis, il y a aussi des choses humaines, des contrefaçons humaines, des exagérations, des déviations. Et Blumhardt va, comme un véritable apôtre, avoir le discernement spirituel pour pouvoir éliminer justement ce qui est déviation, ce qui est exagération, de telle sorte que le mouvement est épuré et finalement va se continuer à s'étendre, notamment dans la région de la forêt noire. Alors, que faire? Là se pose le problème devant lui. Est-ce qu'il doit propager le réveil, ce réveil pour lequel ses parents ont prié, pour lequel les pasteurs piétistes avec lesquels il a été élevé ont prié? Il comprend que là, il y a une réponse aux prières qui sont vantées. Que doit-il faire? Alors finalement, il décide de ne rien faire. Il dit dans le fond, c'est l'œuvre de Dieu. Là aussi, bon, ça peut se discuter, enfin, c'était l'option qu'il avait prise. C'est l'œuvre de Dieu. Il décide de ne rien faire pour étendre le réveil au-delà des frontières de sa paroisse. Mais si, d'au-delà des frontières de sa paroisse, on vient vers lui, il ne repoussera pas non plus ceux qui viennent. Voilà la décision qu'il prend. Bon, il faut dire qu'il est dans le contexte d'une église nationale, où les juridictions et les circonscriptions sont très délimitées. Et de fait, s'il avait été sur le territoire d'une autre paroisse, sans l'accord du pasteur en titre, il aurait eu certainement des problèmes avec sa hiérarchie. L'Église luthérienne, à cette époque-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, est assez structurée. En Allemagne, il y a des évêques, un peu comme dans l'Église catholique. Donc automatiquement, là, il était devant un problème institutionnel, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Et malgré ce fait, n'est-ce pas, on entend parler du réveil. Et de partout, on vient là, dans la paroisse de Blumhardt. Alors, ceux qui avaient voulu éviter ce produit, jalousie d'un certain nombre de ses collègues qui vont l'attaquer en disant que c'est un homme épouvantable, etc. Une chose aussi que va faire Blumhardt, il va remettre la confession en honneur, la confession auriculaire. Il invite les gens à venir se confesser à lui, n'est-ce pas ? Bon. Il est tout à fait légitime, bien sûr, bibliquement parlant, comme le dit d'ailleurs l'apôtre Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Peut-être une petite critique qu'on aurait pu adresser à Blumhardt, c'est alors que finalement la confession des péchés dans la Bible, confession auriculaire, est quelque chose qui doit naître spontanément. On peut avoir besoin de s'ouvrir, de soulager sa conscience à un frère, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est tout à fait légitime. Maintenant, Blumhardt n'était pas loin d'en faire un peu une obligation comme on le fait dans l'Église catholique, quoi. Ça, c'est peut-être un petit peu ce qui est critiquable. En tout cas, le réveil donc se répand, un véritable réveil avec repentance, œuvre digne de la repentance, des réparations, des mises en ordre de la vie, ça c'est absolument indiscutable. Et notamment, justement, beaucoup viennent confesser des problèmes occultes. Hein. Comme souvent dans les campagnes au XIXe siècle, l'occultisme était profondément implanté malgré le christianisme, et beaucoup pratiquaient des arts magiques, et beaucoup étaient malades à cause de cela. C'était une des grandes découvertes aussi de Blumhardt, n'est-ce pas ? Il prêchait en disant, bien, beaucoup sont malades parce que justement, ils ont ouvert la porte au diable par la pratique d'arts magiques. Et il faut dire que dans les confessions, l'essentiel des confessions qui étaient faites à Blumhardt, c'était des gens qui confessaient avoir eu recours à des arts magiques, soit eux-mêmes pratiquant la magie, soit pour être guéris de maladie, ils allaient voir des gens qui pratiquaient des arts magiques. Et là, justement, Blumhardt s'est trouvé devant un problème. Il a été obligé de constater très vite que il y avait, par les arts magiques, des guérisons indiscutables. Ça, il avait beau, pendant tout un temps, vouloir se voiler la face sur ce sujet, il a été obligé de constater qu'il y avait des guérisons indiscutables par les arts magiques. Or, il exhortait, lui, les gens, à se détourner des arts magiques. Mais qu'est-ce qu'il avait à leur offrir en échange ? Médecine officielle ? Médecine officielle était peu développée dans les campagnes à cette époque-là. Les gens n'avaient pas d'argent pour se faire soigner. La sécurité sociale n'existait pas. Il fallait trouver autre chose. Alors, à nouveau, il a cherché dans la Bible. Et il a découvert dans la Bible que non seulement Jésus libérait les possédés, mais qu'il guérissait aussi les malades. Et il a constaté que Jésus avait fait une promesse aussi à ses disciples, Marc 16, ils imposeront les malades, les mains aux malades et les malades seront guéris. Et que somme toute, contrairement à ce qu'on lui avait enseigné à l'école de théologie, Jésus n'avait pas du tout mis de limite dans le temps à l'exercice du ministère de guérison. Et Paul non plus, il constatait qu'il n'y avait absolument aucun texte qui permettait de penser que le temps des miracles était passé. Alors, Blumhardt s'est mis à rechercher le ministère de guérison, le don de guérison. Et un jour, quelques jours après, l'occasion lui a été donnée justement d'intervenir à ce niveau-là. Un beau jour, on est venu le chercher pour un jeune garçon qui était tombé dans une marmite d'eau bouillante, un enfant qui était tombé dans une marmite d'eau bouillante, et qui était dans une situation terrible. Il était en danger de mort, mais non seulement il était en danger de mort, mais il souffrait horriblement. Blumhardt est allé donc dans la maison de ce petit garçon, et puis là, ben, il a osé prier pour lui, pour sa guérison, en lui imposant les mains. Alors, le garçon n'a pas été guéri immédiatement, par contre, il a été soulagé, il a cessé de souffrir immédiatement, quasi immédiatement. Et il est revenu donc plusieurs jours, et en priant pour lui, luttant dans la prière, et au bout de quelques jours, le petit garçon était entièrement guéri. Alors, ça l'a encouragé, et il a donc commencé, à partir de cet exemple, un ministère donc de guérison, de prière pour les malades. Quelques jours après, c'était une petite fille qui était quasiment aveugle, enfin, pas vraiment aveugle, mais enfin, elle voyait très mal, une vue très basse. Et elle avait consulté un médecin qui lui disait qu'il aurait fallu une opération. Bon. L'opération coûtait très cher aussi pour ces gens simples et pauvres, n'est-ce pas ? C'était encore l'époque où la grande pauvreté existait en Allemagne. Alors, Blumhardt a proposé qu'on prie pour la fillette et elle a été immédiatement guérie. Alors, ça a été le début du ministère de guérison. On a appris que Blumhardt priait pour les malades. Et plutôt que d'avoir recours aux sorciers, aux guérisseurs, aux magiciens divers, n'est-ce pas, les gens sont venus vers Bloomart pour qu'il prie pour lui. Et très vite, il s'est avéré que Bloomart avait un don de guérison manifeste, n'est-ce pas, pour guérir toutes sortes de maladies, mais que c'était surtout pour les maladies mentales. Il avait un don spécial, justement, d'ailleurs, dans le texte grec, n'est-ce pas, de la première aux Corinthiens, il est question du don des guérisons. Il semblerait qu'il y ait une certaine, là aussi, spécialisation dans le domaine de la guérison. Ça. Et dans le domaine de la guérison des maladies mentales, c'est là, dans ce domaine-là, que Bloomart a eu le plus de succès. Il y a eu même, dans cette période-là, une résurrection de mort, une jeune fille qui s'était pendue, qui était déclarée morte, il l'avait retrouvée pendue. Bloomart a prié pour elle et elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie, elle a entendu l'évangile et l'occasion de se convertir et de regretter forcément cet acte de désespoir qu'elle avait accompli. Alors, bien entendu, son ministère ne fait pas l'unanimité. D'abord, évidemment, tous ceux qui pratiquent les arts magiques, qui pratiquaient les arts magiques et qui voient leur commerce diminuer d'autant, il est évident qu'ils ne le portent pas spécialement dans son cœur, et certains d'entre eux essaieront d'incendier sa maison. N'est-ce pas ? On essaiera même de tirer sur lui. Le Seigneur le protégera. Et non seulement il y a donc ici de très nombreuses guérisons attestées et reconnues, n'est-ce pas, mais également ces nombreuses guérisons provoquent une ferveur spirituelle intense dans toute la région. Et Bloomart est obligé de multiplier les réunions. Il y a une telle faim et soif spirituelle, n'est-ce pas, qu'il est obligé de multiplier les réunions. D'abord, les réunions de prière. Et Bloomart est bien conscient qu'il a besoin d'être soutenu dans la prière, qu'un ministère aussi particulier que le sien a besoin d'être soutenu dans la prière. Et il a donc des gens qui prient avec lui, qui prient derrière lui, si j'ose dire. Et puis aussi, donc, la nécessité d'enseigner les choses de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est ainsi que chaque samedi soir, il a ce qu'on appelle une classe biblique, où on vient de plus de 170 localités environnantes. Les gens font des dizaines de kilomètres à pied. Il y a parfois plus de 2000 assistants à cette classe biblique du samedi soir. Et les gens, ensuite, ils les exhortent à retourner dans leur paroisse parce qu'ils ne veulent justement pas d'ennui avec ses collègues. Et donc, il a fait cette réunion, en quelque sorte, extra-calendrier liturgique, si j'ose dire, officiel, hein, pour que, justement, les gens qui ont faim et soif de quelque chose d'autre, eh bien, viennent là. Puis, ensuite, il est obligé, le dimanche après-midi, d'organiser un deuxième culte, outre le culte du matin, pour les gens de sa paroisse, et puis aussi parce qu'il y a aussi des gens qui viennent des paroisses voisines. Bon, logiquement, dans l'église luthérienne allemande, il n'y a plus de culte, il n'y a plus rien l'après-midi, et les gens ont soif, alors ils viennent là aussi, des centaines de personnes se pressent au deuxième culte qu'ils composent l'après-midi. Nous avons vu que Bloomart était aussi quelqu'un qui avait étudié la musique, et Bloomart a composé de très nombreux cantiques, et ben, en ce sens-là aussi ressemblait à Zinzendorf, et petit à petit, n'est-ce pas, le réveil grandit à un tel point que les gens viennent dès le début de l'après-midi du samedi, n'est-ce pas, et logent sur place. Puis les possibilités de logement dans les environs sont devenues tellement surchargées chez l'habitant. Les chrétiens logent d'autres, évidemment. Enfin bon, ensuite, les jeunes logent dans des granges. Et puis carrément, les gens dorment en plein air, n'est-ce pas, hiver comme été. Ils passent la nuit du samedi à dimanche en plein air et ils assistent donc à tout ce qui se fait. Alors, il y a dans le village constamment des gens qui sont là, même en semaine, des gens qui viennent pour être guéris, pour qu'on prie pour eux, etc., des tourmentés, des gens qui ont des problèmes avec l'occultisme et tout ça, et qui viennent pour que Bloomart prie pour eux. Alors, évidemment, il a des retours de bâton, ça c'est évident. Et notamment, les collègues jaloux vont l'accuser. L'accuser sur les deux points où, de fait, il est un petit peu attaquable, ça faut bien reconnaître, la confession et l'absolution. Hein, on l'accuse d'être un crypto-catholique, et le consistoire lui envoie le président pour visiter un petit peu, pour voir un petit peu où en sont les choses. Le ministère des cultes aussi va intervenir, sur pression des médecins, qui l'accuse de lui faire de la concurrence déloyale, de telle sorte que le ministère des cultes lui interdit de prier pour les malades. Ce qui n'empêche pas le roi de Wurtemberg, à venir lui-même en personne. Il a entendu parler de ça et il demande à Blumhardt de prier pour lui. Lorsque l'oukase d'interdiction de prier pour le malade lui arrive, Blumhardt s'interroge, il prie, et finalement, il décide de ne plus imposer les mains. On lui interdit d'imposer les mains ? Eh bien, il n'imposera plus les mains. Il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de l'imposition des mains pour guérir. Guéris quand même. Et il prie pour les malades, mais sans leur imposer les mains, puisqu'on lui interdit de le faire. Et le Seigneur guérit de la même manière. Tant et si bien que pour ses adversaires, c'est véritablement un coup d'épée dans l'eau. Mais ces combats l'amènent quand même à aussi connaître une baisse spirituelle. Et au bout d'un temps, le nombre des guérisons diminue. Les prédications aussi sont moins percutantes, n'est-ce pas ? Soudain, Blumhardt se rend compte que bon, il se laisse trop impressionner par ses adversaires. Alors il décide de faire un retour à Dieu, il s'humilie devant Dieu, et la grâce de Dieu revient dans sa vie. Et c'est alors qu'il apprend que un des établissements de bains de la ville de Bâle est à vendre. En 1852, il l'achète et s'y installe. Et il installe ici, il quitte sa paroisse et il fait de cet établissement de bains un centre d'accueil, notamment pour les malades, pour les tourmentés, n'est-ce pas ? Et donc, des gens qui ont des problèmes psychiques, surtout psychiques, mais aussi physiques, n'est-ce pas, viennent passer un temps dans le calme, dans le recueillement, dans la prière. Et là, donc, il exerce avec un certain nombre d'autres personnes, dont la demoiselle Ditus, là, qui avait été guérie et qui, donc, elle aussi fait partie de son équipe, en quelque sorte, qui s'installe avec lui, d'ailleurs, dans cet établissement de bains de Bâle. Et donc là, il va passer les dernières années de sa vie dans ce ministère de prière, d'accueil, tout en continuant, bien entendu, aussi à organiser des réunions dans cet établissement de bains. Blumhardt a aussi insisté énormément pour la santé, sur une vie naturelle. Il étudie aussi pas mal les plantes, la médecine par les plantes, des choses comme ça, disant que les choses sont pas tout incompatibles avec ça. Et la nécessité, disait aux malades qui venaient pour être guéris, qu'il fallait aussi qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie, bien entendu, au niveau du péché, au niveau des choses comme ça. Mais également aussi s'ils menaient une vie déréglée, quoi. S'ils se couchaient à n'importe quelle heure, s'ils mangeaient mal, s'ils avaient une vie qui négligeait les rythmes de la nature, les nécessités du repos, etc. Bon, il avait beaucoup insisté, il a insisté énormément justement sur une vie équilibrée, une vie saine, une vie sainte, pour justement le retour à la santé. Blumhardt aussi n'était pas du tout contre la médecine officielle, ça c'est sûr. Et il lui arrivait souvent, quand il était à Bâle, de faire appel à des médecins chrétiens notamment, pour soigner un certain nombre de malades. Blumhardt est resté toute sa vie dans le cadre de l'Église luthérienne, un petit peu comme Zinzendorf. Il n'a pas voulu. Ce qu'il voulait, c'était donc la vision piétiste, la vision des Moraves, n'est-ce pas, de l'ecclésiolia in ecclesia, la petite église dans la grande église, n'est-ce pas ? Il n'a pas voulu rompre du tout avec l'église officielle et surtout il ne voulait pas de créer de nouvelle église. Bon, il avait quatre enfants, quatre garçons et une fille, et deux de ses enfants deviendront pasteurs, n'est-ce pas ? Deux de ses fils, un troisième aussi deviendra homme d'affaires. Et donc il va mourir tranquillement en février 1880, toujours à la tâche là-bas. Blumhardt était influencé par le piétisme, et un piétisme qu'il voulait populaire, et il avait une crainte très grande et un désir de s'éloigner de tout ce qui pouvait de loin ou de près ressembler au fanatisme. C'était un homme qui était très, très équilibré et un homme qui se voulait biblique. Sa fidélité à la Bible était le point essentiel de sa vie et de son ministère. Il ne voulait rien qui ne soit véritablement fondé sur le solide enseignement de la Bible, quand il a eu les problèmes avec la demoiselle Ditus, c'est après avoir vraiment fait une étude biblique approfondie qu'il a osé affronter les puissances démoniaques. Même chose en ce qui concernait la guérison, etc., etc. C'était un homme qui était véritablement basé sur la Bible. Et c'était un homme de foi. Il reconnaissait qu'il n'avait aucun pouvoir en lui-même, mais que toute son attente était tout simplement dans le Seigneur. Comme il était dans l'Église officielle, il avait beaucoup réfléchi aussi sur la question des sacrements. Et pour lui, il voyait dans les sacrements souvent des moyens de grâce, ce qui n'est pas entièrement faux, puisque la Bible nous dit que en prenant la Sainte Cène, certains peuvent devenir malades. Et il en a conclu que aussi, donc a fortiori, si quelqu'un s'approchait de la table du Seigneur après avoir mis sa vie en règle avec Dieu, il pouvait au contraire obtenir la guérison. Ce qui a été le cas souvent. Et à partir du moment où on lui a interdisé d'imposer les mains aux malades, il lui arrivait d'apporter la Sainte Cène aux malades, ce qui est peut-être aussi un peu discutable parce que la Sainte Cène c'est quelque chose de communautaire. Enfin bon. Et de voir des malades être guéris justement parce qu'ils mettaient leur foi dans ce. Alors néanmoins, il affirmait que les sacrements n'étaient pas des charismes. Parfois, c'était le moyen qu'employait le Saint-Esprit pour agir, mais qu'on ne pouvait pas faire du sacrement un charisme comme ça se fait dans les milieux charismatiques actuels, n'est-ce pas ? Alors, il enseignait son point essentiel. Il disait : il n'y a pas de miracle aujourd'hui, non pas parce que le temps des miracles est passé, mais parce qu'on n'y croit pas. Et qu'à partir du moment où on y croit, eh bien, les miracles se produiront. Et Blumhardt vivait comme Zinzendorf, comme ses maîtres à penser, dans la nostalgie de l'Église primitive. Finalement, il voulait retrouver ce qu'était l'Église primitive. Alors, il vivait aussi en attente du retour de Jésus, nous l'avons vu, il a gardé cette dimension de l'attente de la parousie jusqu'à son dernier souffle. Et lui, finalement, il voyait dans les guérisons, dans le fait de chasser les malades, un des signes de l'établissement du royaume. Il disait, le royaume ne s'établit pas aussi parce que nous n'y croyons pas, n'est-ce pas ? Il insistait énormément sur cette dimension de foi. Et c'est dans ça que Blumhardt a été un lien entre justement le piétisme du 18e et puis le réveil de Pentecôte. Il n'a pas été jusqu'à la redécouverte totale du baptême dans le Saint-Esprit, de la théologie de la chose, mais enfin, il a été un chaînon extrêmement important. Et bon, ses fils ont continué un peu son ministère après lui, mais bon, après lui, ça s'est étiolé. Il faudra attendre le début du siècle suivant pour que le réveil de Pentecôte reprenne en quelque sorte l'héritage qui avait été le sien. Voilà en ce qui concerne, si vous voulez, en gros, l'Allemagne. Parlons brièvement des pays nordiques. Bon, c'est moins important là-bas. Les Pays-Bas sont touchés aussi par un réveil de type calviniste pendant cette période-là, mais sont aussi touchés, malheureusement, par le libéralisme, notamment autour de l'université de Leyde, qui sera en Hollande la grande université libérale, qui l'est d'ailleurs restée jusqu'à nos jours. Pour réagir contre cette déliquescence de la foi en 1880, un pasteur du nom d'Abraham Kuyper, K-U-2-P-E-R, fonde l'Université libre d'Amsterdam, où il essaye d'enseigner donner un enseignement biblique beaucoup plus sain, saïen, n'est-ce pas ? Et en 1886, il crée l'Union des Églises calvinistes protestantes, qui se sépare de l'Église réformée de Hollande et qui va se caractériser par le fait qu'elle est évangélique. Au bout de quelques générations, aujourd'hui, cette Union d'Églises a rejoint l'Église réformée officielle des Pays-Bas, n'est-ce pas ? Est redevenu aussi très libéral, finalement. Voilà. En Norvège, dans les années 20, début du siècle, disons, éclate un réveil sous l'impulsion du pasteur Hans Nielsen Hange, je ne sais pas comment on dit, H-A-N-G-E. Et ce réveil va aussi gagner la Suède à partir de la Norvège quelques années plus tard. Ce sont des croyants qui restent dans les églises officielles, un petit peu à la manière des piétistes, mais qui créent des espèces d'églises de maison. Et puis, il y a une autre tendance de ces réveils qui carrément rompt avec l'église officielle pour créer un certain nombre d'églises libres. Pour ce qui est de la Scandinavie, il nous faut citer aussi Kierkegaard. Alors, Kierkegaard, c'est date 1813-1855, qui est un personnage très curieux, alors très ambigu. Kierkegaard, qui est un Danois, est un philosophe autant qu'un théologien. Et il va être le père de la philosophie existentialiste. Des gens comme Sartre, etc., sont en quelque sorte les héritiers de Kierkegaard. Kierkegaard est un homme qui est tiraillé entre la foi et l'incroyance, finalement. Il a des moments de doute où il philosophe, et il est beaucoup plus proche, si vous voulez, de l'athéisme. Et puis, il a des moments, au contraire, de ferveur, que je dirais quasi mystique, où alors là, il va dire des choses très, très évangéliques. Si bien que c'est un personnage ambigu, parce que selon ses diverses périodes, ce sera plutôt un destructeur de la foi, et dans d'autres, ce sera au contraire... Bon, finalement, le bilan général est mauvais, quand même. Il faut reconnaître que Kierkegaard est un homme qui... Bon, d'un côté, il dénonce le formalisme de l'Église de son temps, et il réclame un engagement, l'engagement de la foi dans les choses de Dieu. Et finalement, il meurt assez jeune, n'est-ce pas ? Et vraiment évangélique, distribuant des tracts à droite, à gauche, faisant des réunions d'évangélisation, d'appels, etc. Vraiment de réveil, quoi. Bon, il meurt réconcilié avec la foi, enfin, vraisemblablement sauvé, mais enfin, l'ensemble de la trajectoire est quand même assez chaotique, quoi. Alors, il conçoit la croix non pas comme l'expiation, ça c'est aussi un point très très négatif de sa théologie, mais comme une victoire remportée sur le diable. Bon, c'est extrêmement, extrêmement discutable. Signalons un autre théologien qui est son ami aussi, qui se nomme Christy Victor, qui va écrire aussi des choses théologiques assez profondes sur l'amour, etc. Bon, enfin, bon, c'est un nom qu'il faut connaître parmi d'autres, parce que c'est un petit peu les grands théologiens de cette période-là, dans des milieux assez proches quand même du courant évangélique, même si, bon, il faudrait nuancer de ça. Le 19e siècle est aussi une époque où, l'expansion missionnaire, on aura l'occasion d'en reparler, vers le tiers-monde, mais il y a aussi, dans les milieux protestants, une prise de conscience des responsabilités donc d'évangélisation de manière générale dans le monde entier. L'interpellation de William Carey, aller dans le monde entier, ce qu'on appelle la Grande Commission, faite de toutes les nations des disciples, etc., dans toutes les nations des disciples, est prise au sérieux, et notamment aussi, eh bien, on estime avoir une responsabilité vis-à-vis des pays du sud de l'Europe qui sont marqués par le catholicisme. Par conséquent, il va y avoir une évangélisation par des missions protestantes des pays catholiques et orthodoxes. D'abord, la Belgique, qui se trouve au sud des Pays-Bas et qui, à l'inverse des Pays-Bas, est restée catholique. Et sous l'influence du réveil qui naît au début du siècle, il va y avoir donc aussi des chrétiens flamands qui vont aller évangéliser la Belgique. En Belgique éclate aussi un réveil donc, qui va aboutir à la constitution d'une église protestante. C'est la première fois en Belgique qu'il y a une église protestante qui est reconnue officiellement par les pouvoirs publics et qui prend le nom de Église nationale belge. Son acte de fondation 1837, c'est aujourd'hui l'église protestante officielle de Belgique. À côté de cette église qui est reconnue officiellement par les pouvoirs publics, il y a un autre mouvement qui, lui, se rapprochera plus des églises évangéliques, qui s'appelle la Mission évangélique belge, qui existe d'ailleurs jusqu'à nos jours, hein, et qui est plus proche des milieux piétistes, fondamentalistes, etc. quoi. En Italie, des missionnaires aussi vont essayer d'évangéliser ce pays très marqué par le catholicisme, puisque c'est le siège de la papauté. Et immédiatement, évidemment, l'arrivée de missionnaires protestants en Italie provoque des conflits avec la papauté. Alors là, il y a des conflits homériques, n'est-ce pas, des fermetures d'églises, des pasteurs arrêtés, des chrétiens aussi, etc. Et finalement, le protestantisme parvient à s'implanter quand même en Italie. Il faut dire aussi que le protestantisme profite d'une réaction anticatholique en Italie même, n'est-ce pas ? C'est l'époque où il y a le mouvement indépendantiste, irrédentiste qui naît, n'est-ce pas ? Garibaldi, les chemises rouges, c'est ça, les chemises rouges, on appelait ça ? Brune, je ne sais pas, oui. Les indépendantistes italiens sont en général anticléricaux parce que le pape est en même temps un souverain temporel. Et alors, notamment dans leur champion, n'est-ce pas, le champion qu'ils essayent de placer au pouvoir, le roi du Piémont, pays dans le Savoie, n'est-ce pas, Piémont, dans lequel il y a aussi les Vaudois. Tant et si bien que les indépendantistes et le roi de Piémont va aussi favoriser l'implantation des protestants. Et grâce à cette situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie à cette période-là, situation politique, n'est-ce pas, le protestantisme, malgré l'opposition alors de la papauté, du clergé italien, va réussir à s'implanter. Oh, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des milliers et des milliers, mais quand même, il y aura un petit protestantisme qui va naître là-bas, qui reste jusqu'à nos jours très anticatholique. Par contre, en Espagne, c'est l'échec total. Il y a une tentative aussi d'évangéliser l'Espagne. On a vu que des gens comme Georges Müller, par exemple, iront évangéliser l'Espagne. Mais le résultat est médiocre. Il y a ça et là quelques chrétiens qui se convertissent, qui sont plus ou moins amenés à quitter l'Espagne. L'Espagne qui est un des pays qui est fermé totalement alors à la modernité. N'est-ce pas, le 19e siècle est un siècle dans lequel les idées de la Révolution française pénètrent plus peu ou prou pendant dans toute l'Europe. L'Espagne est le seul pays d'Europe avec le Portugal qui se ferme entièrement, n'est-ce pas, vous savez que l'Espagne résiste à Napoléon et lui inflige de sanglantes défaites d'ailleurs, n'est-ce pas. Et la guérilla, puisque c'est en Espagne que naît la guérilla, la petite guerre, je veux dire en espagnol, est menée par les prêtres, n'est-ce pas, la guérilla contre les Français de Napoléon est menée par les prêtres. Et donc la restauration monarchique après l'échec, après 1812, après l'échec napoléonien, est une restauration en même temps catholique. Tant et si bien qu'il n'y a aucune chance pour le protestantisme à cette période-là. Donc il faudra attendre le début. Avec un résultat aussi assez mitigé finalement. Bon, la Hongrie avait un passé protestant, là c'est un petit peu plus favorable. L'Autriche elle-même, non, c'est pas ça. Canada, aussi le Canada français. Alors là, il y a quelque chose d'assez retentissant, c'est l'épisode de Chiniki, un prêtre catholique qui se convertit, n'est-ce pas ? Et qui va connaître une véritable persécution avec une campagne de calomnie pour le discréditer, l'accusant d'immoralité, et finalement pour le tuer. Il sera protégé par Abraham Lincoln lui-même. Et l'épopée de Chiniki va entraîner la conversion de plusieurs milliers de personnes, une sorte de réveil au Québec français, donc au Québec canadien, et qui est la base du protestantisme canadien actuel, disons. En Amérique latine aussi, s'installent à cette époque-là des missions américaines. Bon, c'est l'époque aussi où la situation politique peut sembler favorable dans la mesure où les colonies d'Amérique latine s'affranchissent de l'Espagne et conquièrent de haute lutte leur indépendance avec des gens comme Bolivar, Sucre, etc. Enfin, c'est la grande période. Ces gens-là sont aussi motivés par les idées de la Révolution française et on rêve de revivre là-bas donc la Révolution française, le pouvoir espagnol étant considéré à juste titre, n'est-ce pas, comme un pouvoir rétrograde et obscurantiste, anti-libéral, anti-moderniste, n'est-ce pas, tant et si bien que les révolutionnaires se veulent ouverts et favorisent l'implantation de missions américaines. En fin de compte, les populations locales sont trop marquées par le passé catholique pour pouvoir véritablement s'ouvrir à une autre pensée que la pensée catholique, et les missionnaires qui viennent s'établir en Amérique du Sud subissent en général des persécutions, dont certaines extrêmement violentes, certains sont mis à mort. Ça durera jusque dans les années 50 de notre siècle, n'est-ce pas ? jusqu'à Vatican II pratiquement, date où alors soudain, n'est-ce pas, les pays d'Amérique latine vont s'ouvrir à l'Évangile et il va y avoir des réveils extraordinaires dans ces pays-là. Mais donc pendant tout un temps, ce sera extrêmement dur. Russie aussi, où notamment les piétistes, les Allemands piétistes vont aller prêcher l'Évangile. Ils le font avec l'accord du tsar Alexandre Ier, 1800 à 1825. Aussi, le protestantisme apparaît dans ce qu'on commence à appeler l'intelligentsia russe, qui elle aussi est travaillée par des courants révolutionnaires. Le protestantisme est considéré face à l'obscurantisme orthodoxe, l'orthodoxie est très obscurantiste à cette époque-là en Russie, et notamment des communautés allemandes qui se sont installées là, déjà sous Catherine II, vont servir de foyer de rayonnement justement au piétisme. Et il y a donc début ici d'une implantation de courants évangéliques qui ensuite deviendront, se rapprocheront du baptisme et seront la base du protestantisme important qui existe en Russie aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas d'opposition aux tentatives d'évangélisation, alors que les pays catholiques réagissent souvent violemment, nous l'avons vu. Les pays orthodoxes ne s'opposent pas à l'évangélisation, qui parfois est pourtant assez agressive, n'est-ce pas ? Bien, le protestantisme à cette période-là aussi va beaucoup axer sur l'éducation. Ça a toujours été un des points forts du protestantisme, contrairement au catholicisme. Le catholicisme entend tenir les masses dans l'ignorance, dans l'illettrisme, de telle manière que l'influence de l'Église soit totale, que l'Église soit une réalité incontournable qui inculque d'une manière dogmatique tout ce qu'elle croit. Le protestantisme a une démarche tout à fait inverse, dans la mesure où la Bible est au centre de sa foi et de sa piété. Il faut pouvoir, donc, tout chrétien doit être capable de lire la Bible. Et dès le début de la Réforme, n'est-ce pas, le développement de l'éducation est une des bases, une des deux mamelles du protestantisme, parce qu'il faut apprendre aux enfants à lire. C'est au moins la Bible, c'est le minimum. Et puis aussi, n'est-ce pas, dans la mesure où on insiste sur la responsabilité individuelle du chrétien, bien plus le chrétien sera instruit, plus il sera capable de juger des choses, donc plus il sera capable de décider en conscience. Par conséquent, le but n'est pas seulement l'étude de la Bible, ça d'abord, mais aussi l'éducation sur le plan général, de telle manière que le chrétien puisse décider en conscience ce que devront être les grandes options de sa vie. Tandis que dans l'Église catholique, on a un directeur de conscience, le prêtre auquel on se confesse, d'où l'importance de la confession, qui vous dit ce que vous avez à faire. Donc c'est une démarche radicalement différente, radicalement opposée. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'oppose au protestantisme, parce que le protestantisme non seulement s'oppose au catholicisme, bien évidemment, mais parce que, arrachant les masses de l'obscurantisme, il est fait aussi échapper à la tutelle de l'Église catholique. Alors donc, il va y avoir des laïcs et des pasteurs qui vont s'attacher à développer l'éducation, notamment au XIXe siècle. L'éducation qui va être d'ailleurs dans la République française. C'est tout à fait intéressant de noter que la Troisième République, après la chute de Napoléon III, les protestants vont truster la République. Et de nombreux ministres seront des ministres protestants. Et ils vont essayer justement de... Le rêve, si vous voulez, des protestants au XIXe siècle, c'est d'être une religion de substitution pour le catholicisme. En disant, le protestantisme, c'est la religion de demain, c'est la religion de la modernité, c'est la religion qui essaye d'affranchir les masses de l'obscurantisme, de la tyrannie des grands, des nobles, du clergé, etc., de faire des individus des gens responsables, etc. Donc, si vous voulez, il y avait coïncidence entre les idées des révolutionnaires de 89 et puis ensuite des révolutions de 1848, si vous voulez, et puis ensuite de la Troisième République, et puis finalement les objectifs protestants. Si bien qu'on peut dire que la Troisième République va être une république protestante. C'est pas exagéré de le dire. Et par exemple, Jules Ferry n'était pas protestant, mais il avait autour de lui des gens qui l'étaient, et qui vont donc militer pour l'éducation des masses aux grandes dames du catholicisme, n'est-ce pas ? Alors, c'est pareil dans toute l'Europe, par exemple en Hollande. On a ça aussi, donc, avec des gens qui vont partout, les révolutions après 48 s'installent, y compris, par exemple, en Italie. Après, donc, l'indépendance d'Italie, c'est 1850, c'est ça, je crois. Enfin, bon, c'est ces années-là. Les protestants vont agir aussi énormément par le biais de l'éducation. Autre point sur lequel aussi le protestantisme va être très actif, l'action sociale. Bon, nous avons vu déjà des gens comme George Müller, comme William Booth, qui prennent conscience aussi de la misère des ouvriers à cette époque terrible de la deuxième révolution industrielle. Et puis, nous avons des gens qui vont militer contre l'esclavage. Par exemple, Elizabeth Fry, F-R-Y, 1780-1845. Florence Nightingale, qui va, elle aussi, prendre à cœur la situation des blessés de guerre, etc. John Bost, 1817-1880, qui est d'ailleurs le fils du revivaliste Ami Bost, du réveil de Genève du début du siècle, qui va créer donc à la force les établissements de John Bost qui existent encore et qui soignent donc les débiles mentaux, enfin tous les gens qui sont rejetés par la société. En 1837, donc, se crée alors la communauté des diaconesses autour de Rugy, autour du pasteur Vermeil. La première diaconesse qui est consacrée est sœur Caroline Malvezin, n'est-ce pas ? Alors voilà ce qu'il écrit. Après des débuts très modestes, l'œuvre des diaconesses a pris un essor remarquable sur le continent européen, surtout en Allemagne, où une mention spéciale est due à sœur Eva Thielen-Winkler, je ne sais pas comment ça se dit. Dans les pays anglo-saxons, le développement est resté beaucoup plus faible. En France, la communauté la plus ancienne est celle de Rugy, fondée en 1841 par le pasteur Vermeil et sœur Caroline Malvezin. Parmi les autres maisons de diaconesse, citons celle de Strasbourg, fondée en 1842, celle de Saint-Loup en Suisse en 1842 et le diaconat de Bethesda 1892 à Strasbourg. Voilà. Alors ensuite, il y a les hospices de Valbonne qui sont aussi créés par des chrétiens pour les lépreux essentiellement. Puis le pasteur Rochat, 1849-1917, fonde à Genève la Croix-Bleue pour aider le relèvement des buveurs. La Croix-Bleue, c'est la reproduction du drapeau suisse, n'est-ce pas ? Si ce n'est que la croix qui est blanche devient bleue dans le cas. Josephine Butler, 1828-1906, qui s'occupe du relèvement des prostituées et qui milite pour l'abolition des maisons de tolérance, institution terrible du XIXe siècle, où les prostituées étaient regroupées avec l'appui de l'État, n'est-ce pas ? Elles étaient reconnues par l'État. La profession de prostituée était une prostitution officiellement reconnue par les pouvoirs publics. Et donc, là, eh bien, voilà. Alors, Josephine Butler considère que c'est un esclavage terrible pour ces femmes et donc va militer pour l'abolition de ces maisons de tolérance. C'est l'époque où se développe aussi un mouvement qu'on appelle le christianisme social. Le christianisme social insiste énormément sur justement l'action sociale et pense que par ce moyen-là, on pourrait établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est une des utopies qui ensuite va déboucher sur l'action politique, voire l'action révolutionnaire. Et il est à constater que toutes ces œuvres qui partaient de cette utopie-là, mais qui n'avaient pas aussi pour objectif la conquête des âmes, eh bien, se sont effondrées. Et aujourd'hui, en général, il ne reste pas grand-chose. Voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire du protestantisme de cette période-là. Il nous aura encore un point à voir. Peut-être qu'on peut le terminer, il nous reste quelques minutes. Les efforts de conciliation. C'est l'époque aussi où on se rend compte que le protestantisme est divisé, que cette division, finalement, n'est pas tellement à la gloire de Dieu. La division du protestantisme est la rançon de l'insistance qu'il met sur l'individualisme, mais finalement, on se pose la question de savoir est-ce que c'est véritablement biblique. Et en 1846, est créée à Londres l'Alliance évangélique, qui a pour but, sans rechercher une fusion des différents, des différentes églises protestantes, de constituer une sorte de fédération qui permettrait une certaine coexistence pacifique des différentes églises qui la composeraient, voire, dans un certain nombre de grands points, une collaboration. N'est-ce pas ? Et à partir de l'alliance évangélique, vont naître d'autres fédérations du même type, des alliances internationales, notamment en relation avec les missions, dont on aura l'occasion de reparler. Ensuite, je vais vous lire, si vous voulez, les principes de l'alliance évangélique adoptée à la conférence de 1846 à Londres. Voilà en gros ce qui était décidé. Les membres de l'alliance seront uniquement des personnes qui maintiennent ce qu'on appelle des vues évangéliques en ce qui concerne les points de doctrine suivants. Premièrement, l'inspiration divine, l'autorité et la toute suffisance des Saintes Écritures. Deuxièmement, l'unité de Dieu dans la Trinité des personnes divines. Troisièmement, la dépravation totale de la nature humaine, conséquence de la chute. Quatrièmement, l'incarnation du Fils de Dieu, son œuvre de réconciliation pour les hommes pécheurs, son intercession, son règne en tant que médiateur. Cinquièmement, la justification du pécheur par la foi seule. Sixièmement, l'œuvre du Saint-Esprit pour la conversion et la sanctification du pécheur. Septièmement, l'immortalité de l'âme, la résurrection du corps, le jugement du monde par notre Seigneur Jésus-Christ, la félicité éternelle des justes et le châtiment éternel des méchants. Huitièmement, le ministère chrétien en tant qu'institution divine, le devoir permanent de célébrer le baptême et la Sainte Cène. Neuvièmement, le droit et le devoir d'user du jugement personnel pour l'interprétation des Saintes Écritures. On n'envisage pas que l'Alliance prenne ou aspire à prendre le caractère d'une nouvelle organisation ecclésiastique, ni qu'elle prétende exercer des fonctions dans l'Église chrétienne. Son but est simple, il peut être atteint sans intervention et sans modification d'aucune des branches de l'Église chrétienne auxquelles les membres de l'Alliance peuvent se rattacher. Voilà. Donc ça, c'est le premier effort d'œcuménisme, si vous voulez. L'œcuménisme naîtra de cette prise de conscience d'une nécessité de rapprochement donc, des églises chrétiennes dans le monde évangélique. C'est le monde évangélique qui est le premier à se rendre compte de cette anomalie et d'essayer d'y pallier du mieux qu'on peut quoi, en attendant. Voilà. Est-ce que vous avez des... Tu prêtes juste ton crayon ? Vous avez des questions à poser ?